Bonjour à tous. Ça va bien? Moi, j'ai-tu droit à une prédication américaine dans mon temps? Je me rappelle un de mes amis qui m'avait dit un jour, il me contait qu'un de ses amis passait une entrevue. Et vient le temps de la dernière question. Lors d'une entrevue pour un emploi, on anticipe toujours cette question-là. La dernière question, c'est « Pourquoi est-ce que je te choisirais plus qu'un autre? » Alors lui, il s'est pas cassé la tête, il les a regardés, il dit « La réponse est simple, c'est parce que je suis le meilleur. » Il dit « Pourquoi se casser la tête? » Il dit « C'est ça qu'ils veulent entendre. » Dans le fond de nous autres, on pense tous qu'on est les meilleurs. Dans un domaine particulier, on est tous convaincus qu'on est meilleurs qu'à peu près la grande majorité autour de nous. Et Paul, dans notre texte de Romains 12, nous exhorte à se considérer, à se regarder avec humilité. Et quand que je prends la Bible et que je vois une exhortation dans ça qui dit « Faites ça », c'est parce que je considère que naturellement, je n'ai pas cette tendance à faire ce pourquoi il veut m'exhorter. Surtout en ce qui concerne les dons spirituels. Et aujourd'hui, on va regarder ce texte. On va lire à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le service, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La semaine passée, on a vu cette section de 3 à 5 où ce qui nous parle du corps de Christ. Et avant ça, Michel nous parlait qu'on doit s'offrir un sacrifice vivant. Parce que ce que Dieu veut produire avec nous, ce n'est pas une gang de légalistes qui est centrée sur le comportement, sur ce qu'il faut que je fasse, qui est bien et mal, et que notre vie chrétienne est complètement gérée sur ça. Mais il veut produire une attitude, il veut nous renouveler dans notre être intérieur, afin qu'on grandisse dans notre amour pour Jésus. Et suite à ça, j'ai voulu appliquer ça dans l'Église d'aujourd'hui. Et je vous ai posé la question, de quelle manière devons-nous nous conduire dans la vie quotidienne, dans notre communauté ici, à Cap-de-la-Madeleine? Ce qui nous a amené à considérer l'unité de l'Église. On doit aimer l'unité, on ne doit pas fonctionner en vase clos, que ce soit nos ouvriers, que ce soit nos différents ministères, que ce soit vous. On veut avoir une même vision centrée sur l'Évangile et ce que ça se répercute aussi dans nos foyers. Et j'ai pratiquement terminé la prédication en disant ceci. Mais ce n'est pas tout de promouvoir une vision centrée sur l'Évangile, il faut la mettre en place. Mais le dernier bout de phrase, il faut la mettre en place, j'en ai pas parlé. Et là, c'est notre texte d'aujourd'hui. Et pour ce faire, on va regarder les dons, parce que les dons servent à mettre une vision dans l'Église en place. Deux choses. L'exhortation qu'on voit au verset 6, « Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui a été accordée. » Et on va regarder ces dons, particulièrement le verset 6 et 7. On m'a demandé de porter une attention particulière, surtout sur la prophétie et l'enseignement. Donc, la semaine prochaine, on va continuer à partir du verset 8. Pas moi, je pense que c'est Trevor qui va continuer le texte. Et évidemment, on va avoir une bonne section sur des applications. On va, comment, Denis, toucher la corde sensible? L'exhortation. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. La première chose qu'il faut mentionner dans cette liste de dons, c'est que du verset 6 à 8, il n'y a aucun verbe. Dans l'original, il n'y a aucun verbe de mentionner. En fait, l'original se lit comme suit. Ayant des dons selon la grâce donnés à nous différents, soit la prophétie selon l'analogie de la foi, soit le ministère dans le ministère, soit l'enseignement dans l'enseignement, l'exhortation dans l'exhortation, et il continue comme ça. Il n'y a pas de verbe. Pourquoi? Et si on prend nos traductions, et surtout la Louis II, ils vont mettre, si c'est la prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Qu'il l'exerce. Donc, on a introduit un verbe ici, exercer, donc il pratique. Et on va l'extensionner à tous les autres dons. Et pourquoi faire ça? Pourquoi joindre exercer? Dans un sens, ça dit rien. Que celui qui fait la prophétie, qui fasse la prophétie. Que celui qui enseigne, qui enseigne. Que celui qui exhorte, ça ne dit rien. C'est juste la répétition d'une même idée. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'il veut faire Paul ici. Mais l'exhortation à ce qu'on ait des dons différents selon la grâce est précédée de la même exhortation au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Et là, il y a une espèce de parenthèse où ce qui nous parle du corps, et là vient le contraste. Mais nous avons des dons. Donc, il réfère à cette grâce qui nous a été accordée dans une certaine mesure de foi. Et ce que Paul veut dire, finalement, à mon sens, c'est pas simplement qu'on a reçu des dons par grâce, mais c'est exercer-les dans l'humilité. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce dans l'humilité. Que celui qui a le don d'enseignement, qu'il fasse dans l'humilité. Que celui qui a le service, qu'il fasse dans l'humilité. Que celui qui exhorte, le fasse aussi avec humilité. Le point de Paul est centré sur cette humilité qui va se répercuter dans notre ministère. Regardez les mots. Au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée », et là, il y a l'exhortation à chacun selon une mesure de foi. Au verset 4, « En effet », au verset 5, « Ainsi », donc explique le verset 4, et 6, « Mais », donc il y a un contraste. J'aime Paul parce qu'il est très logique. Très logique. L'exhortation, je donne quelques explications qui m'aident à comprendre ce que je veux dire. Et là, je reviens avec mon exhortation. Et ce qui nous aide à comprendre ici, c'est le corps de Christ. Et donc, les dons qui sont là, c'est le fonctionnement de l'unité dans l'Église qui se fait sur la base de l'humilité à travers l'exercice de mes dons que le Seigneur nous a donné dans le fond. Alors, utilisez donc ces dons avec humilité. Soyez dépendants de cette foi parce que la foi, dans le fond, caractérise le croyant qui est renouvelé dans son esprit. Elle ne regarde pas à lui-même, elle regarde vers les autres. Puis elle ne peut pas se péter les bretelles parce que ça ne vient pas de toi. Alors sois humble et pratique les dons qui t'ont été donnés. Donne-toi un sacrifice et exerce-le en tant que tel. Pourquoi l'humilité, c'est important? Je vous donne trois raisons. L'humilité est une chose importante, à mon sens, dans le contexte ici. Parce que l'unité dans cette diversité requiert l'humilité. Soyons hypothétiques. Imaginez une équipe de hockey, disons par exemple, je ne sais pas, mais Canadien. Je dis ça comme ça. Imaginez que le Canadien serait toutes des personnes égocentrées qui ne veulent pas penser aux autres, qui ne veulent pas... L'image n'est pas bonne, c'est ça qui se passe. On ne peut pas performer. Là, il se battait pour un record bizarre cette session-ci, la 29e position dans la... Tu sais, mais qu'est-ce que ça fait? Moi, j'écoute pratiquement jamais le hockey. J'ai écouté le hockey dernièrement avec les Calgary. On aurait dû un match de Pee-Wee, là. Je veux dire, ils ont mangé une ratelée, là. Tu sais, la première période, ils ont lancé 6 lancés, puis l'autre équipe en avait 22 à peu près. Pourquoi? Ils jouaient tout seuls. Ça paraissait, puis je suis pas le plus grand connaisseur de hockey, mais ils jouaient tout seuls. Ça peut pas fonctionner. L'unité requiert l'humilité de dire que je travaille en équipe. Mais aussi, c'est qu'on a reçu des dons. Mais ça l'implique que quelqu'un en a besoin. S'il donne des dons à l'Église, le don de service, bien c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a des besoins. S'il y a quelqu'un qui est enseignant, bien c'est parce qu'il y a du monde qui a besoin d'être enseigné. S'il y a quelqu'un qui exhorte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être exhorté. L'humilité d'enseigner. Et on comprend rapidement l'utilité dans la liste des dons quand on fait juste considérer ceci. L'humilité d'enseigner sans orgueil, mais aussi recevoir cet enseignement sans prétention. Donner avec humilité, mais recevoir sans s'apitoyer sur soi. Exhorter avec humilité, mais recevoir l'exhortation avec empressement. Puis on peut mettre plein de qualificatifs là-dessus. Dieu a voulu donner des dons parce qu'il sait qu'on a de besoin de ces dons. Et troisième raison, c'est que l'humilité est d'abord et avant tout une attitude qui commence dans le cœur et qui sort vers l'extérieur. Paul s'intéresse beaucoup plus à notre attitude qu'à simplement l'action de servir quelqu'un. Toute l'exhortation est centrée, en fait, quasiment tout le chapitre 12 est centré sur au moins deux choses, l'humilité et l'amour. Et l'amour commence au verset 9, et c'est pour ça que j'ai voulu le lire tantôt, parce qu'il va enchaîner avec l'amour, mais sans perte de vue. Par exemple, au verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. » Donc, il ne perd pas de vue l'humilité. N'importe quel service se fait dans l'amour et dans l'humilité. Mais regardons ces dons. Commençons par celui tant attendu, la prophétie. Si c'est selon la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, ou encore plus littéralement, soit la prophétie selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Prophétie veut simplement dire proclamation, d'où le verbe grec, le mot grec, c'est prophétia, et c'est le terme proclamation. Paul souligne que ça doit être selon l'analogie de la foi. Et le problème ne vient pas du mot prophétie, aussi étonnamment que ça puisse paraître, mais il provient du mot foi. Parce que dans le Nouveau Testament, le mot foi, il y a à peu près 5 ou 6 définitions. Et dans notre texte ici, il revient à 2 reprises au moins, au verset 3 et 6. Et dans les deux cas, il n'a pas la même signification. Et c'est le contexte qui détermine le sens qu'on donne au mot. Ayez des pensées raisonnables sur vos dons spirituels et pratiquez vos dons dans l'humilité. Si c'est la prophétie, exerce-le en proportion de la foi. Et c'est pour ça qu'il y a des traductions qui mettent le mot « proportion » selon la mesure qui t'a été donnée. Paul, ce qui est ajouté ici en rapport avec la prophétie, c'est que cette évaluation humble des dons cherche à rester dans les limites de la foi, selon l'analogie de la foi. Dieu trace une limite à ça. Et quelle est cette limite? Et l'humilité dans l'exercice du don de prophétie concerne le fait que je vais m'imposer une limite. C'est pas de la prophétie et abracadabra, n'importe comment. Mais l'humilité, c'est d'imposer une limite. Et cette limite, c'est la foi, le contenu de l'ensemble de la doctrine chrétienne. Au moment où Paul écrit ses lettres, cette lettre, il commence à avoir un bagage d'écrits du Nouveau Testament. Les écrits commencent à s'accumuler, puis on en a du bagage. Il dit, sortez pas de ce cadre-là. Mais ça, on peut le démontrer de d'autres façons. On va revenir. Mais commençons par ce qu'il n'est pas, la prophétie. Ce n'est pas l'équivalent de prédiction au sens de futuriste. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas un don de voir dans l'avenir ou d'annoncer des choses qui vont se produire. C'est proclamation. Mais ce n'est pas aussi, elle ne doit pas être considérée comme l'équivalent du don d'enseignement. Mais deux dons plus loin, il y a un don spécifique pour l'enseignement. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que la prophétie? Considérons quelques textes. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et on va lire 1 à 4. Juste quelques réflexions sur cette idée de prophétie. 'Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Il invite l'Église à rechercher l'amour. Et le chapitre 13, c'est cette voie par excellence qui est l'amour. Mais d'aspirer aux dons spirituels, surtout celui de prophétie. Il n'est pas logique de dire que le don de prophétie appartient à un groupe particulier, parce qu'il parle à toute l'Église et dit « aspirez à ce don ». Non, on ne peut pas isoler un certain groupe parce que « ah, ça, c'est des prophètes ». C'est pas ça que ça parle. Donc, il attribue une certaine mesure, et la prophétie est là-dedans. Ça s'applique, et il veut qu'on cherche ces choses. Aussi, ce qui est décrit de façon très simple. Qu'est-ce que la prophétie, verset 3, « celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes ». Donc, c'est un don de parler. Mais quel est le contenu de ce parler? Bien, ils édifient, ils exhortent, les consoles. C'est clair, ça. Et troisième chose, c'est que celui qui a ce don, c'est un don d'édification de l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Deuxième texte, continuons dans 1 Corinthiens 14, versets 29 à 33. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Verset 30. Un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? C'est une révélation spontanée qui est destinée à être communiqué, poussé par l'Esprit, qui est destiné à être communiqué à l'ensemble de l'Église. Et au verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça reste dans le cadre des Écritures. Ils les exhortent. Ils appliquent la parole. Et là, la limite. Ils prophétisent, mais ils restent entre les deux couverts de la Bible, qu'ils fassent selon l'analogie de la foi. On le fait entre les deux couverts de la Bible. Et prenez par exemple 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je vous le lis. Mais examinez, verset 20, 5-20, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les, par exemple. On peut donc comprendre que la prophétie, c'est quelque chose qui est encore valide aujourd'hui. C'est quelque chose qui est poussé par l'Esprit de Dieu aux croyants, qui est destiné à exhorter, à édifier, à construire l'Église et qui est destiné à être communiqué dans l'Assemblée. Mais elle peut être communiquée, mal comprise, puis c'est pas infaillible. Retenez ce qui est bon, il faut examiner. John Piper a dit ceci. Une longue citation, je remercie Danny pour la traduction. Oups, c'est écrit petit. « Je suis persuadé que le don de prophétie est valable ou pertinent aujourd'hui et n'est pas égal à l'Écriture dans son autorité, mais précieux comme une expression guidée par l'Esprit que nous n'aurions ni connue ou entendue. Elle est puissante pour ce moment en particulier et elle apporte la conviction, l'exhortation ou la consolation pour le réveil et pour augmenter la foi. » Cela ne devrait pas nous faire peur comme si c'était quelque chose d'incontrôlable, mais elle devrait plutôt être traitée comme une nouvelle compréhension ou aperçue. Elle est faillible, elle peut être vraie ou fausse, parce que l'être humain est pécheur, faillible et limité. En tant que tel, c'est lui qui amène le message. Deuxième don, le service. Le terme qui est utilisé, puis peut-être dans vos Bibles, vous avez le terme « diacre ». Par exemple, la colombe, dans Romains 12, utilise le mot « diacre ». Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Mais le mot ici, c'est « diaconos ». Mais est-ce qu'il est en train de vouloir faire une espèce de catégorie de personnes, les diacres, après ça, il va avoir les enseignants, puis il va avoir... Non, il s'adresse à toute la congrégation. Et le terme « diaconos », c'est un terme général dans la Bible qui est utilisé dans plusieurs façons. J'ai compté à peu près 20 façons là, que le mot est utilisé. Et ici, c'est un terme très général. C'est pas une charge officielle dans l'Église. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que prophétie est apportée avec une certaine limite, avec l'analogie de la foi, donc restant entre les deux couverts de la Bible. Les trois dons qui suivent, c'est-à-dire le service, l'enseignement, l'exhortation, dans l'original, il y a un mot qui revient à trois reprises, comme si c'était un bloc ensemble. Et les trois autres dons, mais il y a d'autres caractéristiques qu'un autre frère va traiter la semaine prochaine. Mais ici, le mot, c'est dans le ministère, dans l'enseignement. Soit l'enseignant dans l'enseignement, soit l'exhortant dans l'exhortation. Pourquoi l'enseignant doit se concentrer humblement dans son enseignement, ou dans son exhortation, ou dans le service? La meilleure explication que j'ai trouvée, très intéressante, c'est celle-ci. Le point principal de Paul, c'est que ceux qui ont de tels dons devraient se consacrer aux dons qu'ils ont reçus, ceux qui servent au service, ceux qui enseignent à l'enseignement, ceux qui exhortent à l'exhortation. Paul fait cette déclaration parce que la discipline et la persévérance sont nécessaires afin d'utiliser ces dons pour le maximum d'avantages. Que ceux qui servent, qui exhortent, qui enseignent, persévèrent et s'attachent, se consacrent à leur ministère. Le don d'enseignement. Le don d'enseignement diffère de la prophétie parce que l'enseignement, c'est une exposition qui implique un transfert d'informations, de connaissances. La prédication, quant à elle, c'est proclamation. Et ça, bien, c'est, on voit là-dedans souvent qu'il va y avoir du réconfort, de l'encouragement, de la mise en garde, et on va l'attacher souvent à la prophétie. Donc, on va distinguer souvent la prédication puis l'enseignement. Et là, oui, il y a une partie de la prédication qui est de l'enseignement, et puis vice-versa. Mais le point ici, c'est que celui qui enseigne de façon très simple, il enseigne, il instruit. C'est ça que ça veut dire. Le don d'enseignement est considéré dans les Écritures comme un des dons très importants. Vous savez qu'il y a plusieurs listes de dons dans le Nouveau Testament? Oui. L'enseignement est dans toutes les listes, même celle de Pierre. Pierre, la liste se résume à deux. Ceux qui parlent, ceux qui font du service. Mais toutes les listes de dons, l'enseignement est compris dans ça. Et il vaut la peine de se rappeler que Paul ne cherche pas à établir des fonctions officielles dans l'Église. Mais qui a ces dons? Qui a ça, le don d'enseignement? OK. En cœur? Non. Elle n'a pas vu venir celle-là, mais... Selon le texte, qui a le don d'enseignement? Ben, les enseignants. C'est qui les enseignants? C'est ceux que Dieu a doués. Et là, il parle à toute la congrégation. Il n'est pas en train de dire qu'il va avoir les pasteurs, les docteurs. Dans d'autres listes, oui. Par contre, c'est une des qualifications des pasteurs, docteurs, des anciens. C'est nécessaire. Mais c'est premièrement, notre texte nous dit, versets 1 et 2, il y a un appel au salut, il faut que tu sois sauvé. Donc, pour avoir le don d'enseignement, il faut que tu sois sauvé. Deuxièmement, c'est que tu es renouvelé dans ton intelligence. Et troisièmement, c'est que le Seigneur te donne le don. Et le deuxième appel, bien, tu lises-le. La question ici, ce n'est pas le nombre de personnes à qui qu'on enseigne. Ce n'est pas ça la question qui est dans le texte ici. Mais considérons quand même les pasteurs, docteurs, anciens, parce que c'est une des qualifications pour les pasteurs. Le texte ne s'adresse pas à eux, mais regardons un peu ce que ça dit, parce qu'il y a d'autres textes qui parlent du... Parce que ça ne dit pas grand-chose, là. Il dit qu'il y en a qui vont avoir le don d'enseignement. Mais le don d'enseignement est utilisé dans toutes les listes, et même dans la théologie pastorale de 1-2 Timothée Tite, qui revient souvent. Et si on prend les caractéristiques pour les anciens, dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée 3, c'est simple, le chapitre, c'est les qualifications pour les anciens, ensuite de ça, tu as les qualifications pour les diacres. Ils sont pareils, sauf un. 1 Timothée 3, 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Ça présuppose au moins deux choses. Une connaissance et la capacité de communiquer cette connaissance. La question, ce n'est pas le nombre de personnes. De toute façon, Dieu donne une mesure à chacun. Mais, tous ceux qui ne sont pas efficaces dans leur enseignement, parce que c'est là-dessus qu'ils vont être évalués, ne peuvent pas être anciens. Donc, même ceux qui ont le don d'enseignement, ce n'est pas tous ceux qui enseignent qui vont être appelés au ministère d'enseignement, comme pasteur ou docteur ancien. Mais c'est quoi le contenu de cet enseignement-là? Bien, il est très bien illustré dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 25. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, regardez ce qui entoure le don d'enseignement. Ce qui entoure le don d'enseignement, allô? Il n'y a pas de querelle, il est affable envers tous, il a le don d'enseigner et de supporter, et il est capable de redresser avec douceur. Et c'est un don d'édification de l'Église, Éphésiens chapitre 4. Ils vont perfectionner les saints en vue que l'Église fasse l'œuvre du ministère. Le ministère n'est pas limité à celui qui fait la prédication, mais c'est le peuple qui fait le ministère. Et dans le peuple, il y en a qui ont le don d'enseigner. Bien, enseigner. Il n'est pas dit qu'il faut qu'il y ait un bureau de, 26 pouces par 14. Ils enseignaient. Ça peut être une personne, ça peut être deux, ça peut être 22, ça peut être 3000. Le nombre n'est pas la question. Il y a une mesure pour chacun. Mais la question qui se pose, c'est celle-ci. Êtes-vous appelé au ministère? Peut-être que oui, peut-être que non. Considérez humblement votre don, mais il vaut la peine de se poser ces questions. Y a-t-il une confirmation par les autres? Avez-vous les habiletés? Avez-vous le désir? Et avez-vous une vie conséquente? Il y a une mesure à chacun, une quantité, et même on peut dire un degré d'influence. Que vous soyez leader, ancien, diacre, ou peu importe dans l'Église, Romains 12 nous appelle à avoir des considérations modérées, raisonnables en fonction de nos dons. Et peu importe le don, exercez-le en amour et en humilité pour l'unité du corps. Si je ne suis pas engorgé, c'est parce qu'on est arrivé au moment des applications. Je vais y aller dans deux sens aujourd'hui. On va faire une application que j'ai appelée « Comment mettre la vision en place dans l'Église ». Évidemment, je vais juste donner, me limiter à notre texte d'aujourd'hui dans Romains chapitre 12. Quelques principes dans le texte. Je n'ai pas la prétention d'appliquer là, de façon exhaustive là, tout ce qui s'adresse à la vision dans l'Église. Mais je crois, et je suis convaincu, que si j'essaie de considérer, et je suis quelqu'un qui croit à la souveraineté de Dieu, et les trois dernières prédications que j'ai faites à l'Église, c'est des textes qui m'ont été demandés, et les trois textes que j'expose, à un moment donné, j'ai réalisé que ça concerne toute l'unité de l'Église. Pourquoi? Dieu souverain, ça doit s'appliquer pour nous. Qu'est-ce que ça prend pour une vision? Ça prend des personnes. Ça prend du monde. S'il n'y a personne, il n'y a pas de vision. C'est pas pire jusque-là. Et quelle personne que ça prend? Ça prend des croyants. 12, 1 et 2. Des personnes renouvelées dans leur intelligence. Mais l'appel n'arrête pas là. Il ne veut pas juste que vous soyez des croyants. Il veut vous équiper avec des dons. 1 Corinthiens 12, 28, il dit qu'il a placé chacun d'entre nous avec des dons, comme il le veut dans son Église. Comment mettre une vision en place dans l'Église? Ben regardez qui est là. Je ne peux pas bâtir une vision avec John Piper. Piper était à Bethlehem Baptist Church dans le fond des États-Unis en quelque part. John MacArthur est en Californie. Je ne peux pas bâtir ma vision avec John MacArthur. Il faut que je regarde qui qu'on a dans l'Église. Non, ça prend des personnes. Ces personnes, c'est des croyants. Ces croyants, c'est ceux qui sont dans l'Église qui vont exercer leur don. J'ai un ministère envers vous, mais vous en avez un aussi envers moi. Et j'ai beaucoup plus besoin de vous que vous pensez. On a besoin d'exhortation, de service, d'encouragement, de simplicité. Mais la vision, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Quelque chose qu'on va afficher ses murs, puis que c'est comment on a la vision. Et voici la question que j'aimerais poser. De quelle manière puis-je m'approprier la mission de l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine de sorte que cela se répercute dans l'exercice de mes dons? On a l'énoncé de mission grâce. En réponse à la grâce dont Dieu nous a fait preuve à l'égard, les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine croient qu'ils leur confie la mission de glorifier sa personne, réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ et faire de chaque disciple un adulte dans la foi et dans sa conduite qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres et qui s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. Wow! C'est l'Évangile. C'est clair là-dessus que c'est l'Évangile. Mais essaie d'expliquer ça à un enfant de 5 à 12 ans. Alors, pour mettre en place une vision, et je ne veux pas rester dans l'abstrait moi aussi, alors je vais prendre un exemple pratique et voir comment on peut mettre une vision dans l'Église, et j'ai choisi l'école du dimanche. Prendre ça et l'adapter pour des enfants. J'ai formulé une phrase, amener le cœur de l'Évangile au cœur de nos enfants. Supposons que ce serait l'énoncé de mission que l'école du dimanche se donne pour éduquer nos enfants dans l'Église. J'ai parlé avec Guy, et les dernières conférences qu'il y a eues, c'est un hasard, j'ai parlé avec hier, puis il me disait que c'était le sujet des messages qu'il avait eus. Ça fait quoi, ça? Un énoncé de mission. Je donne un objectif à mes enfants, mais en même temps, c'est que ça va définir les fonctions des personnes qui exercent leur ministère auprès des enfants. Je ne veux pas avoir un moniteur d'école du dimanche qui va arriver avec du matériel et qui va lire le matériel aux enfants. Pas ça que je veux. Je n'ai rien contre le matériel. Mais ce n'est pas le matériel qui est important. Ce que je veux, c'est que ce sont des personnes qui ont à cœur d'amener et d'appliquer l'Évangile au cœur des enfants. Mais l'Évangile, c'est quelque chose qui est relationnel, c'est quelque chose qui se vit en communauté. Ça veut dire que la définition de tâche, même de la personne qui va enseigner les enfants, doit être d'appliquer l'Évangile au cœur de ces enfants-là. Donc, parler de la repentance, les amener à la croix de Jésus, parler de la... Tu sais, c'est tout ça qui est... Je veux pas minimiser c'est quoi le péché, je veux parler de la grâce, je veux parler... Je veux garder l'Évangile central. Et si je fais ça, bien peut-être que mon matériel ne sera plus approprié. Peut-être qu'il va falloir que je change. Peut-être que ça. Mais là, ça va prendre d'autres ressources. Donc là, je vais avoir besoin du corps en haut. Parce que les enfants ne pourvoiront pas à l'argent pour changer le matériel. Donc, on a besoin de vous autres. Mais déjà, je viens de commencer à participer à fonctionner comme un corps. On veut des personnes qui appliquent eux-mêmes l'Évangile dans leur vie et que ça se répercute chez nos enfants. Et je dois vous confesser quelque chose. Quand j'étais jeune, j'ai aucune idée du matériel que mes professeurs ont utilisé. Je ne m'en souviens plus. Je me souviens de Pierre Fortin, je me souviens de Charles O'Connor, je me souviens de Jean-Claude La Rochelle. C'est ça que je me souviens. Je me souviens de Jean-Guy Paquette qui m'a enseigné aussi, une petite classe ici. Et par exemple, Jean-Claude La Rochelle. Je me souviens, adolescent, c'était le moniteur de classe d'école du dimanche. Et combien de fois, puis ma mère est là, elle peut en témoigner, combien de fois mes parents puis mes frères m'attendaient dans l'auto pendant que Jean-Claude, il prenait du temps pour me parler, pour écouter mes problèmes, puis essayer d'appliquer dans la vie de tous les jours l'Évangile, dans les problèmes que je faisais face. Et dans cette classe, je me souviens d'une chose. On n'avait pas de matériel. On se regardait en pleine face, puis on se parlait de l'Évangile. C'est ça qui reste. C'est ça qui marque. C'est pas le livre, c'est la personne. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut retrouver. Et quelle est la stratégie? Bien, commence par t'examiner toi-même humblement. Cherche humblement, ensuite de ça, à changer les choses dans l'Église. Et cherche à fonctionner comme un corps. Si l'Évangile n'est pas amené dans notre Église locale d'une manière qui ne touche pas de façon profonde le cœur, les gens vont aller ailleurs. On a une réunion samedi. Gilles Poulin a dit quelque chose. Le monde dans les églises vote avec leurs pieds. Si ça ne fait pas l'affaire, ils prennent leurs pieds puis ils sacquent le camp ailleurs. Si vous partez d'une église parce que l'Évangile, ce n'est pas ce qui est au centre de l'église, pas de tout. Mais l'exhortation, c'est pour nous. Il faut le garder central. Il faut l'amener au cœur des gens. Il faut l'amener dans la vie pratique quotidienne des gens. Il faut que ça s'applique dans la vie quotidienne des gens. Il faut que ça l'aide dans nos foyers. Et voici quelques applications que j'ai appelées en rafale. Je m'étais dit, je le ferais. C'est ça, une rafale. J'ai regardé dans le dictionnaire, une rafale, c'est exemple, une mitraillette qui tire plusieurs balles en plusieurs secondes. Premièrement, une exhortation à une auto-évaluation dans l'humilité sous-entend que je dois avoir tendance à en manquer. Ça voudrait donc dire que je pourrais me percevoir autrement que ce que je suis en réalité. Je ne suis pas John Piper, j'aimerais ça, mais je ne le suis pas. Si vous avez un don d'exhortation, bien, vous n'êtes peut-être pas David Paulison qui a construit dans une université le département de counseling le plus influent sur la planète présentement. Non, peut-être, vous ne l'êtes pas. Peut-être. Peut-être que vous allez le devenir, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Dans la bonne mesure, est-ce que vous exercez vos dons? Vous voulez enseigner? Est-ce que vous êtes en train d'étudier présentement? Êtes-vous en train d'essayer de persévérer? Réfléchissez-vous à vos enfants que vous allez enseigner. Vous servez? Êtes-vous en train de servir? Est-ce que vous participez dans le service de l'Église? Les Églises, les frères, pour mettre quelqu'un dans le ministère, c'est la façon qui fonctionne, c'est simple. Ça, on prend du monde qui sont déjà en train de faire les choses. On les remarque et on va vers eux. Puis on cherche à les mettre dans des ministères de diacres, d'anciens ou autres, l'école du dimanche ou les autres. On ne va pas voir ceux qui sont assis dans un coin qu'on ne voit jamais. Mais si vous faites ça, vos dons sont perdus. Deuxièmement, avez-vous remarqué la liste des dons? Tous les dons qui sont là, Paul nous dit que ça sert à l'unité du corps. Mais il mentionne jamais comment les trouver. Il n'y a aucune liste des dons dans le Nouveau Testament qui nous dit comment trouver mon don spirituel. Voici 8 leçons simples. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est simple. Exerce-les. Tu veux savoir c'est quoi ton don? La meilleure façon de le savoir, c'est fais quelque chose. Sois rempli de l'Esprit et regarde qu'est-ce qui se produit quand tu es rempli de l'Esprit. Pense à Dieu. À quoi tu penses? Pense à l'Église. À quoi tu penses? Pense aux inconvertis. À quoi tu penses dans ce temps-là? Le Seigneur va mettre en toi des pensées. Fais-les après. Le point de Paul, c'est pas là, voici une technique pour découvrir tes dons, c'est fais-les. Troisièmement, et je tiens à le faire, même si j'arrive vers midi. La semaine passée, après la prédication, et tout au long de la semaine, j'ai entendu des choses comme ceci. « Hey, ta prédication, là, percutant. » Le mot qui est ressorti le plus souvent, c'était « intense ». Pourquoi? J'ai parlé de l'unité dans l'Église. C'est pas un sujet intense, là. Ben, peut-être que je le suis, je ne sais pas. Mais c'est pas un sujet intense. C'est parce qu'on en manque. Je peux vous parler de l'unité avec ma femme, mais dans mon couple, là, quand ça va bien, je peux t'en parler des heures et des heures de temps. Quand ça va mal, je n'ai pas nécessairement le goût d'en parler. Et c'est sûr que l'Assemblée, bon, il y a des questions qui se posent, il y a toutes sortes d'affaires. Mais quelle est votre attitude face à ces questions? Beaucoup de personnes sont venues me voir parce qu'il y a beaucoup de commérages, on se pose plein de choses, on se dit plein de choses, puis là on est là, puis hey, ça va pas bien. Mais un problème qu'on connaît, ben, on peut déjà avoir une solution. Fait, déjà là, c'est bon. Si je ne connaissais pas le problème, là j'aurais du trouble. Mais je connais le problème. Et en passant, il y a des personnes qui sont en train de régler le problème. Fait que, vous savez pas c'est quoi le problème? Je le sais pas. Alors, je vous dis ceci. Si vous êtes témoin de quelque faute que ce soit et que vous faites rien, si vous êtes témoin d'un péché quelconque puis vous dites rien, si vous désirez bouleverser l'Église par intérêt personnel, si vous êtes prêt à créer des divisions, moi, je vous dis ceci, on a un problème. C'est difficile de parler d'unité. C'est parce qu'on en a de besoin. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a pris au moins 3 prédications où ce que ça l'a donné. Dans la planification que le sujet, c'était ça. Réfléchissons, frères et sœurs. Une crise dans une église, ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être une bonne chose, parce que dans un sens, ça peut permettre de réaffirmer les valeurs profondes de notre église et de mettre en place, en marche, l'Évangile. Vous avez à pardonner, c'est l'Évangile. Vous avez à appliquer de la grâce à quelqu'un, c'est l'Évangile. Que ça devienne partie intégrante de vous pour le régler ces problèmes-là. Là, je ne suis pas en train de parler du bâtiment quand je dis Église. Et quand il y a un conflit, frères et sœurs, on a besoin des autres. Exercez vos dons. Exercez-les avec un débordement d'amour en vue de l'unité. C'est ça un don. Une des meilleures façons de trouver la joie dans cette Église, c'est de manifester vos dons par amour. Un don spirituel, c'est une forme féconde d'amour. Pour Dieu, l'exercice des dons spirituels est inévitablement une expression d'amour de Dieu et ne peut s'exercer que dans l'amour. Et je termine par cette phrase. Vous êtes un don de la grâce de Dieu pour l'Église de Cap-de-la-Madeleine. Cessons de regarder nos chicanes. Cessons de regarder ce qui nous divise. Et à l'intérieur de ça, je vous le dis, il est surprenant de voir à quel point les personnes qui cherchent à régler le problème, on est capable de le faire dans la paix et l'unité ensemble. Seigneur, préserve-nous de créer des divisions. Encourageons ceux qui peuvent avoir été offensés. Faisons grâce à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Pardonnons à ceux qui ont besoin de pardon. Pardonnez! Appliquons l'Évangile à nous autres même. Vous êtes un don de grâce pour l'Église et vous le constaterez seulement lorsque vous commencerez à aimer l'Église d'une manière pratique. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante, qui est riche. Seigneur, on sait qu'on a des problèmes, mais merci parce qu'il y a des hommes qui cherchent à les régler. Et on cherche ton unité, on cherche ta face, on cherche ton expression. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant des problèmes, mais Seigneur, c'est parce que ça ne les concerne pas. Mais dans tout ça, on veut te demander de toucher leur cœur de sorte qu'il n'y ait pas de commérage, qu'il n'y ait pas de division. Merci parce que ceux qui sont présents cherchent ta face, cherchent l'unité. Préserve-nous, Seigneur, du manque d'unité. Je vais te prier pour toutes ces personnes qui écoutent ce message. Tous les chrétiens, tu leur as donné des dons. Et je te demandais qu'ils ne partent pas d'ici, Seigneur, et qu'ils oublient ces choses, mais qu'ils puissent les appliquer dans leur vie quotidienne, que tous les ministères puissent être emprunts de ça, Seigneur, que toute notre vie, Seigneur, 7 jours sur 7, qu'on cherche à appliquer ça, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans notre Église. Donne-nous la joie d'appartenir à cette Église, Seigneur, pour l'amour de ta gloire et l'amour de ta personne, Seigneur. On veut te dire qu'on t'aime. Et si entre nous, des fois, c'est difficile, On veut te rendre gloire, Seigneur, parce que tu as choisi de travailler dans le contexte de cette Église afin qu'on puisse te ressembler, Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Apprends-nous à les compter. Crée un cœur de paix, d'amour, Seigneur. On a besoin de ces choses. On te prie pour ça, Seigneur. Amen.